Welcome to the GAC Files, a podcast about the people, issues, and ideas driving Global Affairs Canada.
Bienvenue dans les dossiers d'AMC, un balado sur les personnes, les défis et les idées qui animent Affaires mondiales Canada.
And now, introducing your host, Global Affairs Canada's David Morrison.
Et maintenant, présentons votre hôte, David Morrison d'Affaires mondiales Canada.
Francis Trudel is one of the public service's top human resources professionals. He started his career at National Defense before joining Global Affairs as a director general in 2007. Other than a two-year stint as head of mission in Uruguay, Francis has worked in human resources ever since at Global Affairs and is currently the assistant deputy minister. He came by my office recently to talk about what first brought him into the public service, how he came to Global Affairs, and some of his currently hot files, including the creation of an International Assistance Foreign Service Officer stream. On a parlé aussi des langues officielles et on a fait la plupart de la conversation en français. Hey, Francis, thanks for stopping by the GAC Files. I know you are always a hot topic. HR is always a hot topic. So before we jump into that, I just want to remind us of the rules here at the GAC Files. Avant d'aller plus loin, nous devons tous deux être conscients qu'il s'agit d'une tribune publique et que nous devrions nous abstenir de discuter ou de divulguer des informations sensibles ou classifiées. De plus, conformément à la loi sur les langues officielles du Canada, je vous encourage à parler dans la langue de votre choix et j'en ferai de même. I am going to try to do most of this in French, Francis. You and I usually speak in English, but I'm going to try to do most of it in French, and I again would encourage you to speak the language of your choice. Great. So let's start from the beginning. Qui est Francis Trudel? D'où viens-tu, Francis?
Merci de l'invitation, David. Grande question, très large pour commencer. Écoute, je suis un Québécois d'une petite ville du sud-ouest de Montréal qui s'appelle Coteau-du-Lac, une toute, toute petite ville. J'ai fait mes études, j'ai grandi dans cette petite ville sur le bord du fleuve.
Mais petite, c'est comme 500?
Ou... Un peu plus gros, je dirais qu'on devait être 3-4 000 au moment où j'étais jeune et j'ai grandi dans cette ville-là. L'anecdote qui me suit par rapport à cette petite ville-là, c'est le fait que toute ma famille y est, toute la famille de ma femme y est. Toute la famille y reste encore.
Ouais.
Et j'ai marié ma femme qui était en kindergarten avec moi dans les mêmes années. Donc, on se connaît vraiment, vraiment depuis très, très, très longtemps. Coteau-du-Lac est le nom de la ville.
Loin de Montréal ou tout près?
À peu près 45 minutes, ce qui veut dire à peu près 2 heures avec le trafic là, à Montréal.
Ouais, ouais.
Donc,
De venir d'un endroit si petit... Ça a une influence?
Dans mon cas, à moi, l'influence que ça a eue, c'est plutôt le désir de sortir de cette petite ville-là. Donc oui, ça a eu une grande influence. Dès que j'ai fini le secondaire, donc j'avais 16-17 ans, je suis allé faire des études à Montréal, finalement un peu la liberté d'aller vivre dans une grande ville. Donc je pense que oui, il y a comme
avec ta femme?
Pas avec ma femme. On a été à kindergarten ensemble, mais ça a pris passer l'université avant qu'elle accepte finalement de prendre une sortie avec moi. Donc, nous, on a fait tous les deux notre université séparément à Montréal. J'ai commencé mes études à Montréal pour me déplacer à Ottawa pour venir finir mon bac ici à Ottawa. Toute personne de Montréal à l'âge universitaire qui se déplace vers Ottawa a toujours des grands préjugés sur, la perte d'entertainment que la ville de Montréal offre.
C'était quand?
Donc, mon Dieu, j'ai gradué du secondaire en 89. Donc, je dirais, on était 94 dans ces années-là. Je suis venu faire mon bac ici. Je n'étais pas avec ma femme à ce moment-là. Et ultimement, j'ai fini ma maîtrise sur le côté du Québec, à l'Université du Québec en Outaouais.
OK. Et pourquoi ressources humaines? T'as entré dans le service, dans la fonction publique immédiatement ou...
Mon anecdote d'entrée à la fonction publique est un petit peu cocasse. Les ressources humaines, ce n'était pas le choix initial. Je suis rentré en différentes sciences sociales. J'ai fait un bac qui ultimement est devenu un bac en psychologie. Je trouvais que c'était une discipline un petit peu très intéressante, mais un peu trop abstraite. Je cherchais un endroit d'application pratique à ça. Et je suis tombé au cours de mes études à des concepts de psychologie du travail appliqués en milieu de travail. Ouais. Ça m'a fasciné comme concept. J'ai même fait un diplôme universitaire additionnel pour faire une transition vers ce qu'on appelle les relations industrielles, où éventuellement je me suis spécialisé en ressources humaines, relations de travail étant l'endroit de plus grands intérêts. Mon entrée à la fonction publique fédérale, j'aime la raconter parce que peut-être que ça explique mon désir de venir changer un peu les ressources humaines. Je faisais ma maîtrise, et une maîtrise, on doit la défendre devant un comité de défense. Et un militaire assez haut gradé sur le côté militaire avec un de mes collègues travaillait, m'a invité à venir faire une présentation de mon projet de mémoire. Ouais. Et je suis venu, et je me rappelle très, très bien, c'était en milieu de décembre, quelque chose comme ça, et je vais présenter mon projet de mémoire. Et ce colonel-là de l'armée qui était engagé en milieu de psychologie du travail avait été très intéressé par ce que j'avais présenté. Et sur le coup de ma présentation, m'a offert un emploi.
Ah oui.
Et donc, il m'offre un emploi et me dit « J'aimerais vraiment que tu commences en janvier avec nous. » Moi, naïf, ne sachant pas comment la fonction publique fonctionnait, j'étais très enthousiasmé à ça. Je suis allé acheter mes premiers habits, ma première cravate pendant le temps des fêtes, etc., pour comme arriver au milieu janvier pour me faire dire qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué l'embauche dans la fonction publique fédérale et que l'offre d'emploi ne tenait plus. Ce qui fait que je ne suis jamais rentré par l'entremise de ce que je croyais avoir été une entrevue. Et je suis éventuellement rentré à la Défense nationale par une autre porte un peu plus tard.
Et qu'est-ce que tu as fait,
La première, ma vraie entrée a été par l'entremise d'un, comme beaucoup de jeunes qui rentrent à la fonction publique fédérale, mon opportunité est un emploi très précaire. On m'a offert un emploi de casual pour aller remplacer un collègue qui s'absentait.
Quelques mois.
Ce qui était fascinant, et je me rappelle encore aujourd'hui de cette belle expérience-là, j'ai plein d'anecdotes autour de ça, c'est... Je suis allé travailler dans le bureau d'une dame qui, au milieu des ressources humaines, est très connue, qui s'appelle Monique Boudria. Monique Boudria est devenue la chef des ressources humaines, éventuellement, de la fonction publique fédérale. Mais Monique Boudria était une des femmes qui a fait une percée assez majeure dans un milieu très homme, qui est le milieu de la Défense nationale, et est devenue un sous-ministre adjoint des ressources humaines. Rapidement, elle est devenue un peu un mentor pour moi sans qu'on ait une relation très formelle. Je lui parle encore aujourd'hui. Et je suis donc allé travailler avec elle pendant plusieurs mois. Son collègue de l'époque était le général Dallaire, qui était le sous-ministre des ressources humaines sur le côté militaire. Donc, j'ai tout expérimenté l'événement qui ont suivi, qui était très, très difficile à vivre, mais très enrichissant.
C'était le Somalie?
Non, c'était... il était sous-ministre adjoint des ressources humaines militaires pour ensuite avoir été le commandant à... mon Dieu, j'ai un blanc. Son livre, où il a écrit, où j'ai serré la main de l'enfer, là, qui était son passage. Mon Dieu, j'ai un blanc. Je vais y revenir dans le montage, j'imagine. Ouais. Donc on a vécu son retour avec les premiers cas de post-traumatisme suite à ses interventions. Et puis par la suite, j'ai accédé à des postes d'officier assez classiques en ressources humaines, c'est-à-dire j'étais un agent de dotation, un agent de relations de travail, je suis éventuellement devenu gestionnaire. Donc mes percées dans la fonction publique ont été dans le milieu des ressources humaines. Je me suis déplacé après dans des postes un petit peu au niveau de l'informatique. J'ai fait un petit peu de travail dans des projets d'ampleur au niveau de l'informatique, mais toujours resté avec le créneau des ressources humaines.
Et tu as commencé ici aux affaires extérieures, aux
qui étaient les affaires extérieures à ce moment-là.
Étaient les affaires extérieures. À quand exactement?
Donc, c'est en 2007. J'étais à ce moment-là un exécutif à la Défense nationale. Je ne connaissais pas les affaires étrangères, les affaires, le ministère des Affaires mondiales comme on les connaît aujourd'hui. J'étais un exécutif qualifié dans un poste senior à la Défense nationale et les deux sous-ministres adjoints des ressources humaines s'étaient parlé pour une opportunité et j'ai reçu un appel pour dire « on a un concours ouvert, pourquoi viens-tu pas compétitionner dans le poste? » Donc j'ai compétitionné comme on le fait dans les postes, les concours habituels, sans savoir dans quoi j'arrivais, sans avoir plus d'aspiration que ça à la vie rotationnelle qui a fait partie un peu de mon parcours par la suite. Ouais.
Et tu étais chef de mission à Montevideo quand?
Donc,
ça faisait partie de l'attraction ou...
Pas du tout.
Pas du tout. Ouais,
ouais. Et en fait, en 2007, j'avais une jeune enfant. Je ne savais pas tout à fait ce que voulait dire la vie à l'étranger. C'était jamais un plan. En fait, c'est assez particulier dans la façon dont ça s'est passé. Les gens qui étaient ici se rappelleront peut-être de la période de 2009 où le ministère était passé à travers un événement assez inconfortable qui était le moment où « we almost blew our financial vote », en 2009. Et lorsque le sous-ministre adjoint de l'époque, qui était Michael Small, des ressources humaines, mais aussi la personne qui était dans ton poste, David, qui était Gérald Cossette à ce moment-là, on commençait à faire un diagnostic de ce qui avait mené à ces problèmes-là. On s'est rapidement rendu compte que la façon dont nous gérions les ressources humaines avait mené une gestion des dépenses qui était sous-optimale. J'ai passé presque un an de temps dans ce qu'on appelle un task force, à la demande de Gérald et Michael Small, où j'ai quitté mon poste de directeur général ici pendant un an de temps. Et c'est suite à ce travail-là que j'ai fait avec eux et le désir du ministère d'envoyer des gens avec un profil peut-être un peu différent dans certains postes, de me considérer à Montevideo en 2010, pour répondre à la question.
Après 3 ans.
Un peu plus que 3 ans, effectivement. Formation linguistique en langue étrangère, évidemment, je ne parlais pas espagnol du tout. Formation intensive. Et je suis revenu en 2010, seulement 2 ans après l'affectation. Puis j'aime le rappeler aux gens parce que, évidemment, ça fait un peu partie de ça fait un petit peu partie de mon travail maintenant de faire ce genre de décision-là avec toi, David, puis avec les sous-ministres. On m'a demandé de revenir. On m'a demandé de revenir après 2 ans parce que le ministère, à ce moment-là, finissait DRAP. On m'a donné 2 mois de notice pour que je puisse revenir de l'étranger en plein milieu d'année scolaire pour ma fille de l'époque qui, à l'époque, elle avait 11 ans. Donc, un moment assez difficile de transition, mais comme quoi, des fois, les besoins organisationnels doivent primer sur les...
You've come by it honestly then to be on the receiving end of the kind of calls that you now have to make routinely.
Which I don't like doing. I don't like experimenting at the other end. And I'm completely honest, I thought it was probably a good decision to make. I hated everything about it. I was taking my daughter out of school. I thought I had 1 more year of posting. My family was doing great. But there's something actually pretty encouraging to see that, you know, deputy ministers can actually move their assets around when they're actually required to do so for the need of the organization. Right. It was disruptive, but corporately as an institution, at that moment in time, it was probably a good decision to make.
Parle-moi un petit peu sur ce que tu as appris comme chef de mission et comment ça t'aide maintenant dans les ressources humaines.
J'aurais pas pensé au départ de cette expérience-là que j'aurais eu autant d'apprentissage qui allait venir d'une expérimentation, d'une gestion d'un poste de chef de mission. En fait, je dirais que le stretch était à plusieurs niveaux. D'abord, il ne faut jamais sous-estimer le défi qu'est de gérer ou de travailler dans une langue étrangère. I like to say to people that my IQ goes down quite a bit when I speak another language, and I, you know, and maybe it doesn't start very high to begin with. So there you go. Donc, il y a un défi avec la langue étrangère, il y a un défi avec la culture et l'environnement, il y a un défi avec les enjeux familiaux. Ouais. On oublie que nous comme diplomates, l'ambassade, les employés, l'environnement s'occupent de nous. Mais la famille, on a besoin d'y porter très attention. C'est souvent plus difficile pour eux. Mais j'avais aussi...
Et ta fille, comment est-ce qu'elle a réagi?
Ça a été probablement, elle a bientôt 16 ans, c'est probablement l'expérience la plus riche de sa vie. Puis j'argumenterais que c'est probablement l'expérience la plus riche qu'elle va avoir dans sa vie jusqu'à quelques expériences qui viendront la marquer plus tard, là, mais c'est quelque chose de très, très riche. J'avais anticipé un départ du Canada difficile. Vous savez, l'Uruguay, c'est l'été et l'hiver, il fallait sauter des demi-années au niveau scolaire, etc. Ma fille a bien fait. Mais j'avais sous-estimé le défi de revenir.
Ouais.
Et surtout d'aviser une jeune de 10-11 ans au moment, de lui dire « Bonne nouvelle, on retourne au Canada » quand elle, dans sa tête, il reste un an avec ses amis, etc. Mais mon défi additionnel au-delà de la famille était aussi le fait que je ne viens pas de la tradition des affaires étrangères ou du ministère des Affaires étrangères que j'avais joint à l'époque. Et l'expérience et la profession d'être un diplomate qui s'acquiert au fil des années, c'est chose que je respecte énormément chez les gens qui nous entourent, des choses que je n'avais pas. Et d'arriver dans une si petite mission où on fait nos propres communications.
Il y a comme 4 Canadiens, ouais.
Il y en a 2 de trop. Il y en avait 2 au total.
Okay.
Chef
de mission et MCO.
Un chef de mission et un MCO, une équipe très compétente au niveau des employés locaux, un autre groupe d'employés pour lequel j'ai un grand respect dans le réseau qui nous aide et nous fait souvent survivre dans un paquet de circonstances auxquelles les Canadiens, on est bien contents de pouvoir dépendre de leur expertise. Mais ce qui faisait que la mission était si petite que je faisais mes propres démarches, je faisais mes propres notes d'allocution, je ne veux pas minimiser l'aide que j'avais des gens qui m'entouraient, mais c'était très, très, très limité. Ce qui fait que j'aurais presque argumenté que ça aurait été plus facile pour moi de transiger dans une mission d'envergure moyenne plutôt que petite, puisqu'il y a des chefs de programme qui peuvent venir nous aider un petit peu. Mais ça m'a fait apprécier énormément le métier qu'est la diplomatie, respecter mes collègues qui opèrent là-dedans de façon beaucoup plus fluide que moi je le fais. Et je pense que ça fait de moi, jury's still out on that, mais probablement de moi un meilleur responsable de services corporatifs. Je n'argumente pas que l'expérience de l'Uruguay est similaire à n'importe quelle grosse mission, mais on est capable de faire certaines extrapolations et de fonctions et de responsabilités qui nous permettent d'un peu plus comprendre, pas comprendre complètement, mais d'un peu plus empathique à ce qui se passe ailleurs.
Qu'est-ce que tal? T'as parlé de langues étrangères. Mm-hmm. Qui fait partie de la vie ici au ministère. Mais je voudrais parler aussi des langues officielles.
Oui.
J'essaie de faire cette podcast en français, mais c'est grâce au gouvernement canadien que, mm-hmm. que je peux parler un peu de français, parce qu'il y a 30 ans, quand je suis entré dans le ministère, j'ai passé presque 7 mois ou 6 mois en formation français. Et puis le jour après, j'ai commencé en espagnol. Mais cette formation linguistique en langue officielle n'existe plus. C'est vrai?
C'est partiellement vrai. C'est-à-dire le programme auquel tu fais référence s'appelait le programme Ab Initio. Où c'est un programme très, très, très agressif qui existe à peu près nulle part ailleurs à la fonction publique fédérale. Il n'existe plus ailleurs et plus ici non plus. C'est-à-dire que la nuance de ce programme-là, c'est qu'on faisait des embauches de recrutement et on faisait venir les gens en formation intensive où on payait une partie du salaire, 80 % du salaire, si je me rappelle bien, pour que les gens apprennent la langue, mais ils n'étaient pas encore nommés comme FS, okay, tant aussi longtemps qu'ils ne rencontraient pas les exigences linguistiques. Et on pouvait faire cette formation-là jusqu'à 2 ans de, okay, temps. Ce programme-là n'existe plus. D'abord, on ne fait plus de recrutement à grande échelle comme on le faisait avant, puis on pourra rentrer peut-être dans ce sujet-là parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne le fait plus de cette façon-là. Mais ce qui existe encore, qui est encore à la disposition des ministères comme outil potentiel à utiliser, mais qui est de moins en moins utilisé, c'est ce qu'on appelle des processus non impératifs. À ce moment-là, la nuance là-dedans, c'est que les gens doivent quand même rencontrer les exigences de leur poste, mais ils ont une période tampon qui permet de rencontrer tes langues, mais c'est à la responsabilité de l'employé, ouais, et de l'employeur de rencontrer les langues à l'intérieur d'une une période prescrite. C'était très, très populaire dans le passé. Je ne suis pas certain où les ministères, et ce n'est pas que GAC, là, c'est l'ensemble des ministères de la fonction publique ne fait presque plus de non-impératifs. Les gens ont mis plus d'emphase sur c'est un requis d'emploi comme une connaissance ou comme, ouais, une expérience, ouais, ou comme une habilité, et qu'elle doit être rencontrée parce que la loi sur l'emploi oblige que c'est une, ouais, ouais, le rend une condition d'emploi.
Mais ça, j'entends parfaitement, mais ça implique en fait que la majorité des gens qui entrent dans le service, dans la fonction publique canadienne, sera des gens d'Ontario et Québec et des autres endroits où c'est plus facile, ouais, d'être bilingue.
Oui, il y a une réalité qui est ça. Puis en fait, ce mouvement-là qui est de l'embauche qui nous vient de la région de la capitale nationale principalement, là, des deux côtés de... est tout à fait vrai. Et il y a d'autres raisons qui encouragent aussi ce mouvement-là, donc le déplacement, puisque le travail se fait ici à Ottawa de toute façon, ce qui fait que les déplacements de famille, les coûts de relocation, etc., font tous des encouragements qui fait que lorsqu'on parle de diversité, par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'équité en emploi sur certains critères, mais si on veut vraiment parler de diversité dans sa pleine grandeur, ben ça prend aussi des diversités de background et ça prend aussi, ouais, des diversités d'expériences qui doivent venir d'un endroit peut-être un peu plus large que le stéréotype, ouais, de la région de la capitale nationale. Ouais.
Ouais. Tu as fait référence au changement. Pourquoi on a décidé de quitter le politique, d'avoir un recrutement national et when I was recruited and when many listeners joined the Foreign Service, there was a separate Foreign Service exam that was given all over the world. In fact, Stephanie Beck was here a while ago, and she took it in France. I took the Foreign Service exam at Canada House in London. The ministry self-consciously went out to recruit people from across Canada, bring them together, teach them official languages to the extent that they weren't already bilingual, and then send them out to represent Canada. I assume that some of those practices were stopped just for cost reasons, but maybe you could, mm-hmm, tell us a little bit more about why and when and what the plans are for the future.
Oui, effectivement, il y a, on ne peut pas se cacher qu'il y a un aspect très pragmatique là-dedans qui est l'aspect des coûts. Moi, quand je suis arrivé en 2007, on faisait encore ces recrutements nationaux-là. J'ai probablement été celui qui a fait les dernières campagnes de recrutement. Je me rappelle la dernière qu'on a fait. Est-ce que c'est 2009 la dernière qu'on a fait? On a continué à en faire de façon un peu moins traditionnelle, là, mais la traditionnelle dont tu parles, je me rappelle en 2007 quand je suis arrivé, on était dans le milieu d'une. Et je crois qu'on a fait une autre traditionnelle par la suite. Et on a continué à en faire passer les années 2010, mais de façon moins systématique. C'est-à-dire, on faisait ce qu'on appelle le post-secondary recruitment campaign, mais la façon dont on appliquait les évaluations puis les tests était moins standardisée. Je me rappelle de la dernière que moi j'ai faite, qui était complète, où on avait eu tout près de 10 000 applicants à notre campagne d'application. On essayait d'embaucher à ce moment-là un peu moins de 100 FS juniors à ce moment-là. J'avais 6 sites d'embauche. Hong Kong en faisait partie, Washington, Londres, etc. Vous avez donné des exemples. Elle nous avait coûté près de 3 millions de dollars à accomplir pour embaucher à peu près 80 personnes. Et 80 personnes, c'est un gros chiffre quand on compare aux besoins que nous avons actuellement. Donc, le concept du recrutement n'est pas perdu. Le concept du recrutement doit continuer. Mais la manière dont on le fait à travers le post-secondary recruitment, je pense qu'on doit un peu arriver à la conclusion que ça a généré des bons résultats. Est-ce que c'est la façon la plus... est-ce que le retour sur l'investissement est le bon mécanisme à prendre? Je pense qu'on est arrivé à la conclusion que non. Je parle... apporter une nuance sur la composante de besoins, parce que dans ma discipline... Les gens qui te parlent en mission quand tu les visites ou les gens qui m'accrochent à la cafétéria, je suis assez connu pour avoir le même siège à la cafétéria le matin et ça me permet d'avoir des discussions avec beaucoup de gens.
Francis, c'est toujours entre 8h30 et 9h dans la cafétéria. Alors, si tu as des questions et des problèmes, il est là.
Mais dépêchez-vous parce que parfois les sous-ministres profitent du fait que je suis là pour discuter avec moi aussi. Mais un des points qui est continuellement soulevé, c'est la notion de besoin d'embauche, besoin de recrutement, besoin de promotion. Et la nuance que je veux faire quand j'utilise ces termes-là, c'est pour moi, il y a une distinction très importante entre le besoin réel d'avoir de gens pour en fait livrer le mandat que le ministère a, qui est énorme. Et le besoin que nous définissons en fonction d'une enveloppe salariale que le ministère se fait offrir pour gérer. Et dans mon monde à moi, je me fais souvent mal interpréter, c'est-à-dire que mon travail à moi, c'est de gérer à l'intérieur de l'enveloppe de l'employeur. Arun Dangaraj, qui à un moment donné sera sur ce côté-ci du micro, je suis sûr, dans un de vos interviews, parlera de la collaboration que lui et moi, on doit avoir ensemble comme service corporatif pour s'assurer que vous, les sous-ministres, ne soyez pas en situation précaire au niveau de la gestion de vos ressources. Par contre, ce n'est aucunement un jugement de notre part du réel besoin qui va bien au-delà de cette enveloppe-là. Donc, il n'y a pas de dichotomie dans ma conversation avec les gens en disant que le besoin que vous avez versus la capacité du ministère de rencontrer ce besoin-là est complètement différent. Et je ferais, et juste parce que le sujet est le sujet le plus populaire ou pratiquement le seul sujet avec les gens me parlent quand ils me rencontrent, c'est les enjeux de promotion. Les enjeux de promotion, le concept de besoin et d'enveloppe salariale s'applique exactement de la même façon aux promotions qui s'appliquent au recrutement. Je vous disais qu'on avait 10 000 personnes qui appliquent dans un contexte de recrutement. Je vous dirais que le ministère est un ministère de destination. La fonction publique veut venir ici. Et ceux qui ont la chance, comme nous, d'y travailler, et je vous dis ça, moi, je suis une des personnes qui est venue de l'extérieur, qui ne pensait pas venir faire une carrière très, très longue ici, parce que dans ma discipline, on bouge, on tombe en amour avec le mandat du ministère. Ouais. Donc, on ne part plus. Donc, le taux d'attrition au ministère actuel est... Et je fais toujours attention avec les statistiques maintenant que Phoenix a complexifié un peu notre façon de faire nos statistiques, là. Mais fait que ça rend les opportunités parfois d'avancement, de promotion et même de recrutement plus restreintes qu'ailleurs, puisqu'il y a très peu de mobilité dans le système.
T'es entré en 2007. Moi, je suis revenu au Canada et au ministère en 2012. Une des plus grandes choses qui a passé depuis ce temps-là, c'était l'amalgamation, la fusion entre CIDA et Affaires extérieures. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la filière des agents d'aide internationale, les FSIA? Pourrais-tu expliquer pourquoi il faut compétitionner pour devenir FS quand les MCO n'ont pas eu besoin de le faire?
Je suis content que tu poses la question en faisant le lien avec les MCO, parce qu'il y a une distinction à faire qui est parfois perdue. D'abord, la raison pourquoi on fait cette initiative-là, je pense qu'elle a été véhiculée assez fréquemment, le point étant que dès l'amalgamation, on aurait dû et on aurait pu, mais on ne l'a pas fait immédiatement puisqu'on devait faire en séquence l'intégration de l'ensemble de nos systèmes d'affectation, mais aussi rencontrer des exigences légales qui est de nous rendre conformes aux normes de classification. Donc, on a une communauté dans le système. Et là, je sais que les gens ont l'habitude de parler des PM spécifiquement. Moi, je vous parle des postes de PM à l'étranger qui sont mal classifiés et nous devons devenir conformes. On ne l'a pas fait.
En fait, c'était une vulnérabilité.
C'est une grande vulnérabilité. Et moi, je dirais même, il y a une petite injustice par rapport aux employés du développement aussi, qui font du travail d'importance équivalente aux autres disciplines.
Mais moins payé.
Mais avec la même petite injustice que je trouve que nos MCO vivaient, lorsqu'ils étaient, eux aussi, à côté de leurs collègues des autres disciplines, payés dans une classification AS pour faire du travail, pas pareil, mais du travail d'importance égale, et que leur rotationnalité, leur condition d'emploi rotationnelle n'était pas reconnue comme FS. J'ai probablement ma plus grande fierté de ce que j'ai accompli en ressources humaines ici depuis mon arrivée. Je trouve qu'on a eu beaucoup de réussites. On en parle peu, on parle des problèmes qu'on a à régler, c'est correct. Mais l'intégration, mettre le point final sur l'intégration des MCO, la reconnaissance des MCO dans la communauté FS, c'est important. C'est une grande réalisation. Je commence avec ça pour répondre au FSAE parce qu'il y a une nuance importante. La raison pourquoi ça a été si difficile, si ardu et si long de faire cette intégration des MCO-là, c'est que le requis qui devait être accompli pour être en mesure de le faire était un changement à la norme de classification dans la fonction publique fédérale. Et ces normes de classification-là sont associées aux des agents négociateurs, des syndicats, qui sont les gardiens de leur membership, ils ont très raison de l'être. Donc, pour faire reconnaître les MCO comme FS, nous devions changer la norme de classification au Conseil du Trésor, ce qu'on a réussi à faire.
Ouais, finalement.
Finalement, après très, très, très longtemps. Ce qui nous a permis, après ça, de passer à un exercice de transfert de ces gens-là, qui avaient des conditions d'emploi, mais qui avaient aussi des droits titulaires à leur poste, à cette norme de classification qui a changé. Et donc, et là, je rentre dans le technique, parce que la réponse est technique, c'est pour ça qu'on a permis de faire une conversion.
Au lieu d'une compétition.
Et dans le cas, de la communauté du développement ou de l'assistance internationale, la nuance est différente. La norme est déjà existante et les postes à l'étranger du développement rencontrent déjà la norme. Donc, il n'y a pas de changement de normes et c'est pour ça qu'une conversion ne s'applique pas. Ce n'est pas un choix décisionnel de traiter une communauté différemment d'une autre, c'est la mécanique de ce qui s'applique versus ce qui ne s'applique pas. Donc, comme la conversion ne s'applique pas, le ministère a après ça un choix de dire comment est-ce qu'on va choisir et identifier. Et sous le leadership de Diane en ce moment et de toi, David, aussi dans ton rôle de CDO l'année dernière, on a décidé que ce qui était important, c'est de protéger la discipline et de l'intégrité de la discipline et de s'assurer qu'on allait chercher l'expertise en développement et en assistance internationale. Et le choix qui a été pris par la gestion était de dire que nous allions ouvrir un processus avec des critères très, très, très serrés. Je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais on est au cours de l'été engagé dans un processus qui va permettre la reconnaissance de gens qui rencontrent les exigences spécifiques de la communauté du développement. Diane y tient mordicus que l'expertise, qu'elle vienne des PM, des EC, peu importe où sont les individus qui ont une expérience, soit bienvenue dans la communauté du développement et de l'assistance internationale.
Bon, Francis, je pourrais parler avec toi pendant des heures.
Et on risque de le faire dans d'autres moments donnés, j'imagine.
Et c'est vrai que quand je voyage et je visite les ambassades, les consulats, la plupart des questions, franchement, sont des ressources humaines. Alors, ce sera nécessaire de continuer cette conversation. On a besoin de parler de les employés recrutés sur place.
Absolument.
Le competency-based approach to human resources, which is a very big deal coming down the coming down the track, we could do an entire session on Bill C-65, mm-hmm. on harassment and what that is going to mean for the public service and for GAC in particular. Right. So I predict that you will be one of the most frequent visitors to the GAC files. And if anyone listening has specific questions or concerns ou commentaires pour Francis Trudel,
come to the cafeteria.
Either see him in the cafeteria at 8:30 every morning on the first high top table right outside the coffee section, ou envoyez-nous un petit courriel avec des questions et je vais poser ces questions la prochaine fois. Alors, merci beaucoup, Francis.
Plaisir.
We hope you enjoyed today's discussion. If you have feedback or suggestions for future topics or guest speakers, please send David an email.
Nous espérons que vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions concernant de sujets futurs ou de nouveaux conférenciers, veuillez envoyer un courriel à David.
Thank you for listening, and we look forward to you joining us on the next episode of The GAC Files.
Merci d'avoir écouté le balado. Et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le prochain épisode des dossiers d'AMC.